En 13 de l'ère de la dissuasion. Le procès. L'affaire de l'âge de bronze fut jugée par la cour martiale de la flotte solaire. Bien que les principaux bâtiments des flottes spatiales internationales soient situés en orbite de Mars, de la petite ceinture d'astéroïdes et de Jupiter, l'événement suscitait un tel intérêt au sein des nations terrestres qu'il fut décidé que le procès aurait lieu en orbite géosynchrone. Afin de garantir le confort des auditeurs venus de la surface, on fit entrer la base spatiale en rotation pour générer une gravité artificielle. Derrière les larges hublots du tribunal se succédaient la planète bleue, le soleil aveuglant et les étoiles scintillantes de la galaxie, comme les objets d'art de différentes valeurs d'une grandiose vente aux enchères. Le procès de l'âge de bronze fut conduit au milieu de ces ombres et de ces lumières mouvantes. Il se prolongea près d'un mois. Figure ci-dessous des extraits de la transcription du procès-verbal. Neil Scott, sexe masculin, 45 ans, colonel, commandant de l'âge de bronze. Juge. Revenons maintenant sur le processus de prise de décision de l'attaque du Quantum. Scott. Je vais donc me répéter. C'est moi et moi seul qui ai pris cette décision et qui ai donné l'ordre d'attaquer. Je n'en ai pas averti les autres officiers à bord. Juge. Depuis le début, vous essayez de porter seul la responsabilité de cette action. Cela risque de vous porter préjudice, à vous, mais aussi à ceux que vous tentez de protéger. Procureur. Nous avons la preuve qu'un vote impliquant l'équipage tout entier a été organisé avant l'attaque. Scott. Je me suis déjà expliqué sur ce vote. Sur les 1775 membres de l'équipage, seuls 59 se sont déclarés favorables. Le vote n'a été ni la raison ni le fondement de ma décision. Juge. Êtes-vous en mesure de donner les noms de ces 59 membres? Scott. Le vote était anonyme, il s'est déroulé sur le réseau intranet du vaisseau. Tout a été consigné dans les journaux de bord de navigation et de bataille. Procureur. Vous mentez. Nous avons rassemblé suffisamment d'éléments prouvant que le vote n'a pas été anonyme. Et plus important encore, son résultat n'a absolument pas été celui que vous prétendez. Vous avez falsifié les journaux de bord après coup. Juge. Nous avons besoin que vous nous fournissiez le registre réel du vote. Scott. Je ne l'ai pas. Les résultats annoncés sont les vrais résultats. Juge. Scott, je vous rappelle que si vous refusez de coopérer avec les enquêteurs de la cour, vous risquez de nuire aux membres innocents de votre équipage, ceux qui ont effectivement voté contre l'attaque du Quantum. Sans les preuves que vous pouvez nous fournir, nous serons dans l'obligation de considérer coupable la totalité de l'équipage de l'âge de bronze, les officiers, les sous-officiers et les soldats. Scott, comment osez-vous? Et le respect de la loi? Êtes-vous un vrai juge? Et la présomption d'innocence? Juge. Le principe de présomption d'innocence ne s'applique pas pour les affaires de crimes contre l'humanité. Cette juridiction internationale a été établie à l'époque de la Grande Crise afin de veiller à ce que les traîtres à l'humanité n'échappent pas à la condamnation. Scott. Nous, des traîtres? Où étiez-vous quand nous nous sommes battus pour la Terre? Procureur. Vous êtes des traîtres et de la pire espèce. Il y a deux siècles, l'organisation Terre Trisolaris trahissait les intérêts de la race humaine. Vous avez pour votre part bafoué ses principes moraux les plus fondamentaux. Neil Scott garde le silence. Juge. J'espère que vous connaissez les conséquences d'une falsification de preuves. À l'ouverture de ce procès, vous avez lu une déclaration au nom de tous les accusés pour exprimer votre remords envers les 1847 victimes du Quantum et leurs familles. Il est maintenant temps de montrer votre bonne foi. Scott, après un long silence. Soit, j'accepte de fournir les vrais résultats. Vous pourrez les récupérer dans un fichier crypté de la base de données du journal de bord. Vous trouverez tous les détails du scrutin dans le registre. Procureur. Avant que nous procédions à l'analyse de ce document, pouvez-vous d'ores et déjà nous donner une estimation des résultats? Combien de personnes ont approuvé l'action contre le Quantum? Scott. 1660, soit 94% de l'équipage. Juge. Silence dans la salle. Scott. Mais sachez que même si le résultat avait été différent, même si la majorité avait rejeté cette action, j'aurais tout de même lancé l'attaque. Procureur. Permettez-moi de vous rappeler que contrairement aux sélections naturelles et aux autres vaisseaux de nouvelle génération ayant fui de l'autre côté du système solaire, le système de commande de l'âge de bronze ne vous aurait pas permis de prendre seul cette décision. Sébastien Schneider, sexe masculin, 31 ans, lieutenant, en charge de la détection des cibles et du dispositif d'attaque de l'âge de bronze. Procureur. En dehors du commandant, vous étiez le seul officier à bord de l'âge de bronze à avoir l'autorisation d'empêcher ou d'interrompre une attaque. Ai-je bien raison ? Schneider. C'est exact. Juge. Mais vous ne l'avez pas fait. Schneider. Non. Juge. Dans quel état psychologique vous trouviez-vous ? Schneider. À ce moment, pas au moment de l'attaque, mais avant, quand j'ai compris que le vaisseau ne pourrait plus jamais rentrer et qu'il deviendrait l'intégralité du monde, j'ai changé. Il n'y a eu aucune évolution. Je me suis transformé d'un coup, du tout au tout. Je suis devenu quelqu'un d'autre. Un peu comme si j'étais un de ces poinçonnés de la légende. Juge. Croyez-vous que cela soit possible ? Je veux dire que le vaisseau ait pu être équipé d'un poinçonneur mental ? Schneider. Non, c'est impossible, bien sûr. C'est juste une métaphore. Vous savez, l'espace est une sorte de poinçonneur mental. Toujours est-il qu'à cet instant, j'ai abandonné ma propre individualité. Je suis devenu un être collectif, une cellule d'un gigantesque corps, une pièce d'une gigantesque machine. Une seule chose comptait désormais, la survie de la collectivité. Oui, c'est ça. J'ai du mal à l'exprimer et je ne m'attends pas à ce que vous compreniez, monsieur le juge. Même si vous embarquiez vous-même sur l'âge de bronze, si vous parcouriez des dizaines de milliers d'unités astronomiques ou encore davantage hors du système solaire, vous ne nous comprendriez toujours pas, car vous auriez la certitude de pouvoir rentrer. Votre âme ne quitterait pas la Terre. À moins que soudain le néant envahisse tout l'espace derrière votre appareil. À moins que le soleil et la Terre disparaissent. À moins que là où ils se trouvaient autrefois, il ne reste plus qu'une immensité vide. Alors seulement, monsieur le juge, vous pourriez comprendre notre métamorphose. Je suis californien. En 1967, il est arrivé quelque chose dans mon village natal. Un professeur de lycée, Ron Jones, oh, je vous en prie, ne m'interrompez pas, cette digression est capitale. Pour faire comprendre à ses élèves ce qu'était le nazisme et le totalitarisme, ce Ron Jones a créé une simulation de société totalitaire dans sa propre classe. Au bout de 5 jours seulement, l'expérience de Jones avait réussi. La classe était devenue un troisième Reich miniature. Chaque élève avait de plein gré choisi d'abandonner son individualité et sa liberté pour se fondre dans un collectif absolu. Puis la quête d'une communauté suprême est devenue parmi les élèves aussi fanatique que si c'était une religion. Cette expérience pédagogique qui avait commencé comme un jeu a bien failli devenir incontrôlable. Cette histoire a ensuite été adaptée au cinéma par un réalisateur allemand. Quelqu'un a même écrit un roman, La Vague. De la même manière, lorsque l'équipage de l'âge de bronze a appris que sa destinée serait d'errer à jamais dans l'espace, lui aussi a mis en place ce genre de société communautariste extrême. Et vous savez combien de temps cela nous a pris ? 5 minutes. Oui, 5 minutes. Il n'aura fallu que 5 minutes de réunion plénière pour que les valeurs fondamentales de notre nouvelle société soient acceptées par la quasi-totalité des passagers de l'âge de bronze. Lorsque l'humanité se retrouve abandonnée dans l'espace, il suffit de 5 minutes pour qu'elle devienne totalitaire. Boris Slovinsky, sexe masculin, 36 ans, capitaine, vice-commandant de l'âge de bronze. Juge. Est-ce bien vous qui avez mené le premier détachement de l'âge de bronze à bord du Quantum ? Slovinsky. Oui. Juge. Y avait-il des survivants ? Slovinsky. Aucun. Juge. Dans quel état étaient les corps ? Slovinsky. L'équipage a succombé sous l'effet des ondes infrasoniques générées par les impulsions électromagnétiques de la bombe H sur la coque du vaisseau. Les corps étaient en parfait état. Juge. Qu'en avez-vous fait ? Slovinsky. La même chose que ce qu'a fait l'espace bleu. Nous leur avons bâti un mausolée spatial. Juge. Avez-vous placé les corps dans le mausolée ? Slovinsky. Non, et je doute qu'il y en ait dans celui construit par l'espace bleu de l'autre côté du système solaire. Juge. Dans ce cas, où sont passés les corps ? Slovinsky. Ils ont complété les stocks alimentaires de notre vaisseau. Juge. Tous ? Slovinsky. Tous. Juge. Comment cette décision a-t-elle été prise ? Qui a eu le premier l'idée de se servir des corps comme nourriture ? Slovinsky. Ça, je ne m'en souviens plus très bien, ça m'a semblé tout à fait naturel sur le moment. Je me suis occupé de la partie logistique, j'ai orchestré le travail de stockage, de distribution. Juge. Comment avez-vous mangé les corps ? Slovinsky. Eh bien, la majorité ont été mixés et cuisinés avec les légumes et la viande fournie par notre écosystème autorégénératif. Juge. Qui a mangé ces corps ? Slovinsky. Tout le monde. Tous les membres de l'âge de bronze mangeaient dans une des quatre cantines du vaisseau. Je suis sûr que chacun en a eu au moins un morceau. Juge. Savait-il ce qu'il mangeait ? Slovinsky. Bien sûr. Juge. Comment ont-ils réagi ? Slovinsky. Je pense que certains ont certainement dû être mal à l'aise au début, mais il n'y a eu aucune réaction particulière. Oh, j'ai bien entendu cet officier qui, pendant son repas, a dit « Merci, Joyner ». Juge. Joyner ? Que voulait-il dire ? Slovinsky. Carl Joyner était l'officier en charge de la communication sur le Quantum. Je crois qu'il mangeait un morceau de sa chair. Juge. Comment a-t-il pu le savoir ? Slovinsky. Vous savez certainement comment fonctionnent les puces d'identification. De la taille d'un grain de riz, elles sont implantées dans le bras gauche et peuvent résister à de hautes températures. Ces objets n'ont pas tous été enlevés au moment de la cuisson. Il a découvert une puce dans son assiette et a utilisé son communicateur pour lire les informations qu'elle contenait. Juge. Silence dans la salle. Merci de bien vouloir évacuer les deux personnes qui se sont évanouies. Vous ne pouviez pas ignorer que ce genre de comportement franchissait les frontières de la morale humaine. Slovinsky. Notre ligne de fond morale n'était pas la même. Pendant l'ultime bataille, lorsque l'âge de bronze a dû procéder à une accélération brutale pour s'enfuir, la surcharge du système moteur a provoqué l'arrêt de l'écosystème autorégénératif pendant près de 2 heures. Cette coupure a provoqué de graves dommages dans le système et il nous a fallu longtemps pour le remettre en route. Le système d'hibernation s'est aussi retrouvé en rade. Il ne pouvait plus supporter que 500 hibernautes. Il fallait nourrir plus de 1000 personnes à bord. Sans ce ravitaillement externe, la moitié d'entre nous serait mort de faim. Mais même sans cette contrainte, devant le long voyage qui nous attendait, c'est l'abandon de toutes ces ressources en protéines qui aurait été contraire à la morale. Naturellement, je ne suis pas en train de trouver des excuses, ni pour moi, ni pour mes camarades. Maintenant que je suis redevenu un membre de la civilisation terrienne, c'est difficile de vous raconter tout ça. Croyez-moi, c'est difficile. Dernière déclaration du commandant Neil Scott. Je n'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est un avertissement. Le moment où la vie a quitté les océans pour rejoindre la Terre a marqué un jalon dans l'histoire de l'évolution. Mais les poissons sortis de l'eau ont alors cessé d'être des poissons. De la même manière, les hommes qui entrent dans l'espace cessent d'être des hommes. Je vous le dis, prenez garde lorsque vous voudrez vous envoler sans retour dans l'espace. Le prix à payer est bien plus grand que tout ce que vous pouvez imaginer. Verdict définitif du tribunal. Le commandant Neil Scott et 6 autres officiers haut gradés de l'âge de bronze sont reconnus coupables de meurtre et de crimes contre l'humanité. Ils sont condamnés à la prison à perpétuité. Sur les 1768 membres de l'équipage restant, seuls 138 sont jugés innocents. Les autres sont condamnés à des peines allant de 20 à 300 ans. La prison des flottes spatiales internationales se trouvait au niveau de la ceinture d'astéroïdes, entre les orbites de Mars et de Jupiter. Les condamnés durent donc à nouveau s'éloigner de la Terre. Ils ne seraient pas allés au-delà de l'orbite géosynchrone où avait stationné l'âge de bronze. Après avoir parcouru 350 milliards de kilomètres, ils étaient voués à ne jamais effectuer les 30 000 derniers qui les séparaient encore de la Terre. Lorsque la navette de convoi accéléra, ils voltigèrent une nouvelle fois vers les hublots à la poupe du vaisseau, telles des feuilles mortes destinées à ne jamais retourner à leurs racines. Ils observaient s'éloigner peu à peu cette planète bleue qui avait tant hanté leurs rêves et qui redevenait une fois encore une étoile lointaine. Avant de quitter la base, le capitaine Slavinsky, le lieutenant Schneider et une dizaine d'autres personnes montèrent une dernière fois à bord de l'âge de bronze, sous l'étroite escorte de soldats de la flotte. Ils échangèrent quelques détails au sujet du vaisseau avec l'équipage chargé de reprendre le contrôle de l'appareil. Pendant plus d'une décennie, ce lieu avait constitué la totalité de leur monde. Ils en avaient méticuleusement décoré l'intérieur avec des hologrammes de prairies, de forêts et de littoraux. Ils avaient cultivé de vrais jardins, avaient bâti des fontaines et des étangs, faisant de ce lieu un véritable foyer. Mais à présent, il ne restait plus rien de leur séjour passé. Toute trace avait été effacée. L'âge de bronze était redevenu un vaisseau interstellaire sans chaleur. Tous les militaires rencontrés sur le pont dardaient sur eux un regard glacial ou bien s'efforçaient de faire abstraction de leur présence. Ceux qui les saluaient affichaient des visages solennels, montrant clairement que leur salut s'adressait aux membres de leur escorte et non à ces individus en tenue de prisonniers. Schneider fut conduit dans une cabine sphérique où il présenta le système de détection des cibles du vaisseau à trois officiers, deux hommes et une femme. Ceux-ci traitèrent Schneider comme un vulgaire moteur de recherche informatique. Ils posaient leurs questions d'une voix dénuée d'émotion, puis attendaient ses réponses sans la moindre courtoisie et sans le moindre mot de trop. Le système ne comportant aucune difficulté majeure, une heure fut suffisante pour passer en revue tous les détails. La session terminée, Schneider cliqua à plusieurs reprises sur l'interface de commande, comme s'il effectuait la manœuvre habituelle pour fermer les différentes fenêtres d'information. Soudain, il donna un coup de pied dans la paroi et vola en apesanteur jusqu'à l'autre bout de la cabine. Presque au même instant, les parois de la cabine se déplacèrent, scindant celle-ci en deux et isolant d'un côté Schneider et de l'autre les trois officiers et le soldat qui avaient escorté Schneider. Ce dernier fit apparaître devant lui une interface de contrôle et la manipula à une vitesse étourdissante. Il activa le système de communication interstellaire à haute fréquence. Il y eut un bruit étouffé. Un trou apparut dans la paroi, l'impact d'un tir de fusil laser. L'intérieur de la cabine s'emplit d'une épaisse fumée blanche. Le soldat introduisit le canon de son arme dans le trou et mit Schneider en joue, lui ordonnant d'interrompre son opération et d'ouvrir la porte.
« Âge de bronze à espace bleu, âge de bronze à espace bleu !» lança Schneider à voix basse.
Il savait que le volume de sa voix n'aurait aucune incidence sur la distance que pourrait parcourir le message. Un faisceau laser frappa la poitrine de Schneider. Du sang en jaillit sous forme de vapeur rouge. Enveloppé dans cette brume rougeâtre, il trouva la force de balbutier.
« Ne rentrez pas, ce n'est plus votre foyer. »
Dès le début, l'espace bleu s'était montré plus hésitant et soupçonneux que l'âge de bronze en réceptionnant le message envoyé par la Terre. Il s'était ainsi contenté de ne générer qu'une faible décélération, si bien que lorsque le vaisseau reçut l'avertissement de Schneider, il naviguait encore dans la direction opposée au système solaire. Aussitôt, l'espace bleu passa en mode, avant toute, pour s'éloigner à grande vitesse du système où il avait vu le jour. Lorsque les rapports des intellectrons parvinrent à la Terre, les deux civilisations eurent pour la première fois un ennemi commun. L'incapacité de l'espace bleu à mettre en danger le système de dissuasion qui maintenait le statu quo entre les deux mondes était cependant de nature à les rassurer. Même si le vaisseau essayait de diffuser les coordonnées des deux systèmes stellaires à la plus haute fréquence possible, son message n'avait aucun risque d'être réceptionné par une civilisation tierce. Au vu de ses capacités de navigation actuelles, il lui faudrait encore 3 siècles pour atteindre le système le plus proche, celui de Barnard, et se servir de l'étoile comme d'une antenne amplificatrice à la manière de Eong. Toutefois, il ne faisait pas cap vers le système de Barnard. Il continuait sa route vers la cible qu'il avait déterminée lors de sa fuite. L'étoile NH558J2, qu'il ne rejoindrait que dans 2000 ans. Ce fut le Gravité, le seul vaisseau interstellaire de la flotte qui fut envoyé à sa poursuite. Les trisolariens proposèrent de régler le cas de l'espace bleu en envoyant une gouttelette, officiellement une sonde cosmique à interaction forte, à ses trousses, mais ils se heurtèrent au refus ferme de la Terre qui affirma que c'était une affaire de sécurité intérieure. L'ultime bataille avait été le traumatisme le plus indélébile qu'avait connu l'humanité. Et les 10 années qui venaient de s'écouler n'avaient pas permis d'atténuer la douleur qui en avait résulté. Celle-ci s'était même amplifiée. Autoriser une gouttelette à détruire une nouvelle fois un appareil humain était politiquement impensable, et même si aux yeux de la plupart des gens, l'équipage de l'espace bleu appartenait déjà à une autre espèce, c'était à l'humanité qu'il revenait de faire appliquer ses lois. Jugeant peut-être qu'il n'y avait aucune urgence, les trisolariens n'insistèrent pas, mais rappelèrent tout de même que le Gravité avait la capacité de diffuser des ondes gravitationnelles et qu'il était essentiel de garantir sa sécurité. C'est pourquoi le vaisseau humain serait escorté par 2 gouttelettes, ce qui assurerait dans le même temps au poursuivant une supériorité incontestable sur l'espace bleu. Ce fut donc une escouade composée d'un vaisseau interstellaire et de 2 gouttelettes volant à quelques milliers de mètres de chaque côté de lui qui se mit en chasse de l'espace bleu. Le contraste en matière de taille était tel que si on prenait le recul nécessaire pour voir le Gravité en entier, les gouttelettes devenaient invisibles. En s'approchant d'elles, on pouvait en revanche voir sur leur surface lisse le reflet du vaisseau. Le Gravité n'avait été construit que 10 ans après l'espace bleu, et, en dehors de son antenne à ondes gravitationnelles, il ne présentait aucune autre amélioration technologique majeure. Ses capacités de propulsion étaient certes légèrement supérieures, mais il comptait surtout sur son avantage en matière de stock de combustible de fusion pour le rattraper. Mais même ainsi, au regard de la vitesse et de l'accélération actuelle des 2 vaisseaux, il faudrait tout de même au Gravité 50 années avant de rejoindre l'espace bleu.